Nous allons maintenant aborder un sujet particulier qui est la pertinence de la révélation de Dieu. Pourquoi s'entretenir de cela? C'est là un sujet important car dans leur esprit, les musulmans pensent qu'une religion a été remplacée par une autre. Que le judaïsme a été remplacé par le christianisme et que le christianisme, à cause de la corruption qui l'a gagné, a été remplacé par l'islam. Maintenant, est-ce que cela est vrai? En réalité, réfléchissez à cela. Toutes les religions ont été créées par les hommes. Il n'est pas fait mention dans les écritures du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Dès le tout début, l'intention de Dieu n'était pas d'établir une religion, mais une relation concrète et palpable avec lui. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réfléchir à ce que nous devons répondre et comment y répondre à nos amis musulmans à propos de la théorie du remplacement d'une religion par une autre. En arabe, on appelle ça « nasakh », qui est le mot « copier ». Cependant, si l'on regarde dans l'ensemble du Coran, il n'est jamais fait mention du mot excepté une fois ou deux quand il a le sens de copier un verset par un autre. Pourtant, il n'a jamais été utilisé dans le Coran pour dire qu'une religion serait copiée par une autre. Il n'y a rien dans le Coran qui le prouve. C'est là une rumeur qui a été répandue dans le monde musulman qu'une religion en a remplacé une autre. Plutôt que de discuter sur la théorie du remplacement d'une religion par une autre, prenons, je dirais, la Bible dans un ensemble beaucoup plus global et essayons de réfléchir sur la pertinence de Dieu à l'égard de sa révélation. Comment s'est-il révélé à l'humanité? Si vous examinez les Écritures, et je sais que vous connaissez bien les Écritures, vous savez parfaitement, bien plus que moi, que la Bible, elle est en deux parties. Maintenant, comment la Bible a été divisée? La Bible est divisée en deux parties et c'est ce que j'aimerais en tout cas vous partager. Certainement que vous allez me dire, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce que nous appelons, je dirais, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais je voudrais faire cette découverte avec vous maintenant. En réalité, la Bible est divisée en deux parties avec Genèse chapitre 3, versets 14 à 15, comme le vrai centre de celle-ci. Ce qui vient avant la Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15, et ce qui vient après, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ceci, et cela vous paraît étrange. Mais je souhaite que vous l'envisagiez avec un regard nouveau maintenant. Ce qui précède, Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15, est la création et la chute de l'homme. Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15, est vraiment ce que Dieu a déclaré comme conséquence de la chute de l'homme. Et alors, ce qui vient après est l'histoire de Dieu qui prend soin de l'humanité dans le déroulement de l'histoire pour nous enseigner plus sur ce qu'il est, plus sur ce que nous sommes et comment on pourrait marcher avec lui et hériter la vie éternelle. Laissez-moi vous lire ces versets. Ils sont extrêmement importants et nous les citerons régulièrement pendant notre séminaire. Et je sais que lorsque vous allez commencer à partager votre foi avec vos amis musulmans, vous citerez ces versets. Maintenant, écoutez s'il vous plaît avec beaucoup d'attention ce que dit Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, le serpent représente Satan qui a tenté Ève et qui à son tour a tenté son mari. » Adam, ils ont tous les deux en tout cas pris du fruit défendu et sont tombés dans le péché, coupés de la relation avec Dieu. Et Dieu s'adresse ici à Satan, au serpent. Puisque tu as fait cela, voici ce que Dieu a dit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Maintenant, c'est peut-être la première fois que vous voyez ce verset sous cet angle. L'homme et la femme sont tombés dans le péché. Et tu seras maudit, c'est ce que Dieu dit. Puisque tu as fait cela, à Satan, Dieu s'adresse, tu seras maudit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Toi, Satan, verra une inimitié entre toi et la femme, et même tes descendants, pendant des générations. et même si Satan peut blesser le talent de la postérité de la femme, cependant la postérité de la femme écrasera la tête de Satan du serpent. Maintenant, voilà ce qui est intéressant. La question que je pose toujours à mon ami musulman, selon tes connaissances, quel est dans toute l'histoire humaine le seul homme qui est né d'une femme et qui n'est pas né d'un homme? Et c'est un fait miraculeux. J'ai obtenu de nombreuses réponses, elles étaient toujours justes. Les seules réponses que j'ai obtenues, c'était toujours Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Effectivement, c'est très intéressant. Ils connaissent la vérité. Ils savent parfaitement bien que Jésus est né de la Vierge Marie. C'est écrit dans le Coran, ibn Maryam ruh al-Qudus. Ils le croient, sans aucun problème. Mais ce qu'ils n'ont jamais réfléchi, au fait qu'il est la seule personne à être de la postérité d'une femme. Maintenant, voici mon propos. Cette postérité de la femme a bel et bien écrasé Satan. Même si Satan lui a blessé le talon, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a seulement une explication à cela. Satan a réussi à blesser le talon de Jésus, le fils de Marie, sur la croix, quand il fut cloué. Cependant, Jésus, par sa mort sur la croix, a écrasé la tête de Satan. C'est très important car le serpent est un animal particulier. Vous pouvez lui couper une partie de son corps, mais il continue à survivre. Sauf si vous prenez le serpent et que vous lui coupez la tête, vous lui écrasez la tête, le serpent meurt. Vous le détruisez. Et c'est réellement ce qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi je crois que ce verset divise réellement la Bible en deux parties. Parce que tout ce qui vient après, c'est ce qui concerne Dieu intervenant dans la vie de l'homme. C'est toute la première partie qui vient avant, c'est la création et la chute. Et l'après concerne Dieu s'occupant de l'humanité. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas vu, je dirais, ce texte versé sous cet angle. Donc l'enjeu ici est que Dieu a payé le prix fort pour racheter l'humanité des conséquences du péché et de la chute. Et c'est pourquoi j'invite vraiment mon ami musulman à parcourir différents passages de la Bible et je lui montre par exemple Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Maintenant, vous savez qu'on parle ici de Jésus dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant, nous dit le texte, nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cela concerne Jésus ici. Et nous reviendrons sur ce verset un peu plus tard, mais voici ce qu'il est écrit dans Matthieu au chapitre 1 verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est possible aussi de parcourir avec votre ami musulman de nombreux passages prophétiques. Il se peut que vous sentiez aussi le besoin d'écrire ces textes-là. Le premier concerne ses origines humaines, sa naissance, comme nous venons de le lire. Le lieu exact de sa naissance, Bethléem, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, dans Michée chapitre 5, verset 2, et encore mentionné dans le Nouveau Testament, son ministère. Nous voudrions parler de sa mort sur la croix, comment elle a été prophétisée. Et c'est justement là où j'amène Muhammad sur l'un de mes passages préférés, Ésaïe chapitre 53. Ce chapitre entier, nous l'appelons pratiquement le cinquième évangile, et le chapitre, je dirais 53 d'Ésaïe, c'est tout un livre qui est là pratiquement 700 ans avant la venue de Jésus. Voici ce qu'il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, mais cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, c'est vrai, tous errants, comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru. Il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait fait aucun mal. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasira ses regards par sa connaissance, mon serviteur. Juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et jusqu'à la mort à la croix. Il a été compté parmi les malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Maintenant, après avoir lu ce passage, où je demande à mon ami musulman de le lire, je lui pose toujours véritablement cette même question. Nous venons de lire ensemble le passage d'Ésaïe 53. S'il te plaît, de qui parle ce passage dans Ésaïe 53 ? J'ai toujours obtenu la même réponse, qu'une seule réponse. Le prince de la vie. Yeshua al-Messiah. Ça a toujours été cette réponse-là. La réponse est Jésus. C'est évident. À partir de ce passage, et c'est clair, quand on réalise que ces écrits ont été écrits 700 ans avant la venue de Jésus, maintenant, peut-être que certains vont objecter, mais avec votre ami musulman, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'automatique. On a besoin aussi de prendre du temps de lire les Écritures. Je dirais, tout est aussi dans le relationnel. Nous avons besoin de développer une atmosphère d'amour, de liberté. Peut-être que vous allez vous fatiguer à force de partager des textes, etc. Vous pensez que finalement le témoignage est beaucoup plus rapide qu'on le croit. Non. Avec nos amis musulmans, ça prend du temps. Et même si parfois il y a des tensions, même si parfois, je dirais, votre interlocuteur se fâche, il faut prendre du temps, il faut l'aimer, il faut le considérer. Peut-être prendre un thé. Peut-être simplement partager un repas, mais c'est très important. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de tout mémoriser, mais simplement peut-être d'avoir à votre portée, sur, je dirais, une page écrite, quelques références qui peuvent être véritablement utiles. Et comme ça, vous pouvez en tout cas vous y référer. Et je vais vous montrer, par exemple, quand nous parlons du terme « fils de Dieu », ou de la mort, je dirais, de Jésus, il est important de me référer à des textes bibliques. C'est très important de procéder comme cela. Ésaïe 53 est un chapitre extrêmement important, mais il montre la cohérence du tout début, je dirais jusqu'à la fin complète. Dieu ne change pas, je dirais, par sa mentalité. À partir de la Genèse chapitre 3 verset 14, tout le parcours jusqu'à ce que Jésus vienne, meure sur la croix et ressuscite a été cohérent. Et je pose habituellement à mon ami musulman cette question maintenant. Si pendant des milliers d'années, Dieu a toujours dit que Jésus devait venir, qu'il devait mourir sur la croix, nous l'avons vu ensemble dans l'Ésaïe chapitre 53, et qu'au tout dernier moment, finalement, Dieu change d'avis, qu'est-ce que vous pensez de ce Dieu-là ? Est-ce que ce serait le type de Dieu auquel vous vous attendez ? Ou pourriez-vous encore le croire s'il changeait d'avis tous les 5 minutes ? Comment cela, je dirais, est possible ? Même après tant d'années, où ils promettent la venue de Jésus, Dieu dans sa révélation, il a été cohérent. Dieu ne change pas d'avis. Et nous partageons la mort du Christ.